17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, grand témoin Richard Malka.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous présente plus. Avocat, essayiste, romancier, auteur de bandes dessinées, beaucoup de cordes à votre arc. Donc une actualité que, bien sûr, vous regardez avec attention, puisque aujourd'hui, il y a le procès du Bataclan, il y a l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, et puis vous êtes aussi dans l'aspect mémoriel, on vient de sortir de la commémoration du 17 octobre, donc on va aborder beaucoup de choses, et je voudrais, et vous venez de sortir un livre qui est « Le droit d'emmerder des dieux ». Donc, « Le droit d'emmerder des dieux », et on va y revenir dans un instant. On va commencer peut-être par la commémoration de Samuel Paty et puis les caricatures de Charlie Hebdo. Elles ont deux choses en commun, c'est une escroquerie intellectuelle et ce sont des mensonges. Il y a deux mensonges à la clé. Sur Samuel Paty, on pense que Samuel Paty a été assassiné pour, en tout cas les raisons qu'on connaît, mais Samuel Paty a été assassiné parce qu'une collégienne l'a sciemment diffamé en mentant sur des faits inexistants, en l'accusant mensongèrement de discrimination envers des élèves musulmans, parce que la famille de cette collégienne, remontée par un islamiste intégriste, Abdelhakim Sefraoui, a préféré croire ses mensonges plutôt que de les vérifier, comme certains collègues, et toute la hiérarchie de Samuel Paty d'ailleurs, et n'ont eu de cesse de monter cette affaire en épingle, jusqu'à rapidement livrer l'identité de Samuel Paty et la ville où il travaille en pâture sur les réseaux sociaux, où il fut copieusement insulté, menacé, et on connaît la suite. Donc, c'est terrible de pouvoir donner comme ça à la vindicte quelqu'un, et mentir, puisque cette collégienne qui est rentrée chez elle en disant « Oui, papa, ceci, cela », c'est affreux, quoi.
Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre invitation, j'y suis très sensible. C'est pas évident d'inviter l'auteur du droit d'emmerder des dieux sur une radio confessionnelle. J'étais ravi de faire la semaine dernière une radio chrétienne, puis une radio juive. Je fais aujourd'hui Beurre FM et vous savez que je suis attaché à cette radio pour l'avoir accompagnée depuis ses
débuts.
Absolument,
absolument.
Donc je suis tout à fait heureux d'être là et de parler à vos auditeurs. Alors ensuite, pour répondre à votre question, oui, vous avez absolument raison. À l'origine de ces deux affaires, il y a une escroquerie, une supercherie. Il y a des gens qui mentent, qui font croire que Samuel Paty était raciste, faisait de la discrimination, qui ont fait croire que dans le Jyllands-Posten, ce journal danois, avait été publié des caricatures qui n'avaient jamais été publiées et que trois imams danois ont été rajoutés dans leur dossier de presse.
Alors, vous connaissez par cœur ça et vous l'écrivez très bien dans votre livre, Le droit d'emmerder Dieu, aux éditions Grasset. Simplement, il y a eu des caricatures dans un journal danois, ça a été publié par un journal allemand.
Non, par un journal danois.
Danois d'abord, voilà. Ensuite en Allemagne.
Ensuite un peu partout dans le monde.
Même en Égypte.
En Égypte, pendant le mois du Ramadan.
Et il n'y a jamais eu de problème.
Il n'y a eu aucun problème.
Et là, il y a eu une grosse escroquerie, pour parler de façon triviale, une saloperie.
Oui.
Il y a trois imams danois qui ont fait des petits dessins. Alors racontez-nous.
Alors effectivement, ces trois imams danois, un peu frustrés que ça ne provoque pas autant de réactions qu'ils l'auraient voulu, puisque ces caricatures étaient assez anodines à l'origine, ont été cherchés sur des sites de suprémacistes blancs aux États-Unis des dessins vraiment complètement odieux, les ont rajoutés à leur dossier de presse, et ils ont été faire le tour des capitales arabes en disant « voilà ce qui est publié dans le journal danois », sauf qu'elle n'avait jamais été publiée. Et là, le monde s'est embrasé. Un de ces trois imams, d'ailleurs, s'est repenti très vite. Ahmed Akkari, qui a écrit un livre, d'ailleurs, pour raconter tout ça, qui est parti vivre au Groenland ensuite. Donc, il y a une supercherie. Vous avez raison de nommer ça une saloperie. On a menti, c'est eux qui ont caricaturé l'islam.
En plus, vous dites dans votre livre, c'est même pas des dessins d'artistes, c'est des dessins, ce sont des vraiment des dessins comme ça.
Ah, mais ils ont été rajoutés n'importe quoi, ouais. N'importe quoi.
Et ce sont leurs dessins
qui ont embrasé le monde.
Qui ont embrasé la planète.
Ouais, absolument.
C'est incroyable.
Absolument.
Incroyable, et ça, c'est une manipulation, alors que les autres étaient des dessins tout à fait acceptables. Et
c'était des caricatures, on peut les aimer, ne pas aimer, ça peut être blessant, mais enfin, elles avaient rien d'odieuse au niveau des trois autres. Et d'ailleurs, quand elles sont publiées, il y a quelques, il y a une manifestation au Danemark de 3000 personnes. Bon, voilà, et puis ça passe. Et elles sont, comme on l'a dit, publiées dans le journal Al-Fagr en Égypte. Et, aucune réaction, ça passe. Donc c'est trois personnes qui ont décidé d'embraser le monde, d'essayer de créer un choc de civilisation que nous essayons tous d'éviter, et malheureusement elles ont réussi.
Et donc ça, cette manipulation, c'est au cœur de tout ce qu'on appelle les fake news, les réseaux sociaux.
Et oui.
Vous êtes en plein dedans. Ça veut dire que ces choses-là, on peut pas les arrêter. Les réseaux sociaux sont plus forts que tout.
Alors à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux encore, puisque nous sommes au début, en 2006. Donc, il y avait des fake news malheureusement avant les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le phénomène ne fait que s'amplifier. Et pour le coup, Samuel Paty, lui, il a été victime de ces fake news sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Il faut vérifier les informations. Il ne faut jamais se laisser guider par la haine, par la colère. Dites-vous qu'il y a des individus très mal intentionnés qui eux ont un agenda politique, et que derrière leurs incitations à la haine, eh ben il y a des esprits faibles qui les prennent au premier degré, comme ce Tchétchène qui a été ensuite décapité, ce malheureux professeur.
Alors. Et vous parlez donc à l'instant de tous ces gens qui récupèrent tout ça. Donc le terrorisme maintenant a envahi toute la planète. Et dans votre livre, vous dites donc à propos de ces terroristes qui sont des illuminés, qu'ils n'admettent pas l'autre. C'est non. Le rejet de l'autre.
Non. Oui.
Mais ils oublient eux-mêmes que eux-mêmes sont aussi un autre.
Oui, mais en fait, nous sommes tous des autres.
Chacun est l'autre de l'autre.
Mais
quoi.
Eux considèrent que ce sont des fanatiques. Il y en a dans toute religion, on les connaît depuis toujours. Ils considèrent qu'ils ont la vérité révélée, et que tous ceux qui ne pensent pas exactement comme eux, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, il faut les soumettre au mieux et les tuer au pire. Ce sont les ennemis de tout. Les personnes qui veulent vivre libre.
Alors, vous essayez d'expliquer, dans un passage de votre livre, Le droit d'emmerder Dieu, aux éditions Grasset, vous essayez d'expliquer un peu leur positionnement, comment les sociétés démocratiques doivent réagir, etc. Mais finalement, eux sont dans un autre repère galiléen. Ils sont dans la Umma Islamia, ils sont dans la communauté mondiale. Pour eux, la France, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Australie font partie d'un califat.
Oui.
Donc, comment on peut parler à ces gens-là? C'est pas possible de.
Ah non.
Je veux dire qu'on est dans un même pas dans un dialogue de sourds.
Alors moi,
je
les connais puisque je les vois. Je les vois dans les cours d'assises. En fait, alors là, avec eux. Malheureusement, on essaie de leur parler, mais il n'y a aucun dialogue possible. De toute façon, ils viennent avec le Coran, et puis à toutes les questions que vous leur posez, ils vous récitent un verset du Coran, et ils vous disent « je répondrai pas à vos questions ». Ils font ça devant les victimes. Ils n'en ont rien à faire. Et quand ce sont des victimes musulmanes, ils leur disent « ça n'avait rien de personnel ». Ça fait une belle jambe.
Et vous faites bien de parler des victimes musulmanes, parce que 99,5% ou 6% des victimes du terrorisme sur la planète, ce sont des musulmans.
Bien sûr, mais là, au procès du 13 novembre, il y a eu une scène comme ça la semaine dernière, où il y avait, dans les victimes du Bataclan et des terrasses, il y avait aussi des musulmans. Et une des victimes disait à Abdelslam, mais vous n'êtes pas du tout l'islam, c'est pas vous l'islam. Mais ils n'en ont rien à faire. Eux, ils sont complètement fermés. La seule chose qu'ils ont à dire, c'est non, il n'y a rien de personnel. À des gens qu'ils ont estropiés, blessés à vie et traumatisés. Donc non, avec eux, ils sont trop loin, et il n'y a plus de dialogue possible, et malheureusement, on ne connaît pas la formule de la déradicalisation.
Alors,
on ne sait pas faire.
D'accord, mais au-delà de la formule...
Mais c'est pas eux qu'il faut... Eux, c'est trop tard. Malheureusement, on peut essayer, mais on n'y arrive pas. Ils sont passés de l'autre côté. C'est le discours qui les inspire qu'il faut combattre.
Alors justement, ce discours qui les inspire, il émane de régions, de territoires, de pays... dans lesquels ils prolifèrent, ils se développent. Est-ce que, d'une part, Déjà, la solution, c'est pas au niveau de l'éducation, de l'école. Au moment des pires moments de Daesh, vous avez dû voir les reportages. Un enfant de 5-6 ans, on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être martyr comme mon père. C'est-à-dire que la seule référence qu'ils ont, c'est l'oncle ou le père qui s'est fait exploser. Et pour le gamin de 5-6 ans, c'est son modèle. Donc, est-ce que c'est pas l'école? D'abord, il faut aller au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, et en particulier dans les pays de culture musulmane. Mais dans ces pays de culture musulmane où les régimes sont, pour être poli, tyranniques, autoritaires, pour pas dire dictatoriaux, où ils instrumentalisent l'islam pour garder leur pouvoir, on n'en sort jamais.
Vous avez mis le point sur tout ce qui ne va pas. J'ai une petite nuance par rapport à vous. Vous dites c'est d'abord l'école. Non, je crois pas. C'est d'abord la famille. Ça commence
oui,
là.
Bien sûr.
Ça commence au sein. L'école ne peut pas tout. Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. C'est d'abord
l'éducation, disons
mais
au sens large.
C'est ça.
L'éducation qui regroupe les parents et l'école.
Et oui, c'est aux parents de transmettre des valeurs. C'est aux parents d'abord d'entendre, de transmettre, y compris la valeur de la liberté d'expression, à quel point c'est précieux, et c'est ce que je veux dire dans ce livre, c'est ça l'arme des pacifiques.
Mais dans ces pays-là,
c'est la liberté d'expression.
Dans les pays autoritaires, comme je disais.
Et dans les pays autoritaires.
La liberté d'expression est vécue comme kafir.
Et je sais bien.
C'est être laïque, c'est être de l'Occident.
Oui, alors il y a des variantes, c'est pas la même chose en Tunisie, et en Irak, en Afghanistan, et en Maroc.
La Tunisie est une exception avec la clause de conscience.
Absolument.
Qui vient d'intégrer la Constitution.
Oui.
Donc ça, c'est unique dans le monde arabe,
c'est
musulman.
Effectivement unique. Il y a des variations, mais il y a effectivement un point commun qui est l'instrumentalisation de la religion par les politiques pour essayer de créer une unité factice du peuple derrière des thèmes guerriers, derrière... Parce que la haine de l'autre, ça unit. Quand une société se disloque, parfois les tyrans inventent une guerre pour ressouder tout le monde. Et ça, on a connu ça aussi depuis la nuit des temps. Et malheureusement, on est dans cette situation-là aujourd'hui dans nombre de pays musulmans. Et les premières victimes, vous avez raison, c'est d'abord les musulmans. Mais en France, alors on peut pas faire grand-chose pour ce qui est de l'ailleurs, mais on peut faire en France. Et on peut, en France, remuscler l'éducation de la liberté d'expression. Il ne faut pas l'abandonner. Et puis, c'est vraiment au sein des familles. Il faut lutter contre l'idéologie victimaire. Il faut lutter contre cette idéologie de haine, de colère qui est parfois transmise. Parce qu'il y a des fauteurs de haine en France aussi.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
En compagnie de Richard Malka, le droit d'emmerder Dieu aux éditions Grasset. On parlait à l'instant donc de l'éducation et de cette capacité à être critique, à penser le monde.
Ce sont les textes religieux eux-mêmes qui nous incitent à garder notre libre arbitre et notre libre critique. En fait, ce titre est bouscule un peu, il veut provoquer un peu, il veut réveiller les consciences. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ce droit de rire de Dieu et de la religion qui peut être blessant pour certains, mais précisément, c'est une arme contre les fanatiques et contre les intégristes pour leur retirer la religion et pour la laisser entre les mains des croyants paisibles.
C'est une grosse bagarre. On est en plein procès du Bataclan et au moment où on en parle, moi je voudrais rendre hommage bien sûr à tous les morts du Bataclan et à tous ceux qui ont été assassinés à Charlie Hebdo et ailleurs, et rendre hommage à Mustapha. Mustapha que j'ai connu, qui nous a accompagnés lorsqu'on a lancé le premier journal de l'immigration sans frontières.
Ah, je ne savais pas.
Et Mustapha était l'un de nos correcteurs, puisqu'on était dans l'imprimerie à Porte de Pantin, que Libération voulait bien nous laisser. Et donc on clôturait le journal là-bas, et Mustapha était là, et il corrigeait pour nous. Donc vraiment,
c'était quelqu'un de formidable.
Et ça, c'est
c'était le correcteur de Charlie Hebdo.
Ouais.
Pour rappeler.
Et ça veut dire que le procès Charlie Hebdo, le procès Bataclan, tous les procès, ça veut dire qu'ils sont pour les démocrates que nous sommes, ils sont pour les démocraties, c'est pour nous une façon d'exorciser, c'est une forme de résilience. Il n'est pas adressé à ces terroristes.
Non.
Il est adressé d'abord aux citoyens qui sont capables de réfléchir et qui pensent le monde différemment.
Ces terroristes, on les voit, ils ne peuvent rien entendre. C'est comme s'ils n'avaient plus de cerveau, en fait. Je vous assure que c'est impressionnant de les avoir.
Ce procès est d'abord important pour nous.
Bien sûr qu'il est important. Alors, il est important pour les victimes qui ont besoin de s'exprimer. Il est cathartique pour la société. Il est important pour la démocratie. Il est important parce qu'il faut montrer que ces terroristes, nous les jugeons selon l'état de droit, avec les droits de la défense de manière contradictoire, en prenant le temps. Nous agissons selon l'état de droit. Donc, oui, il est important pour nous. Pour eux, ça ne changera jamais rien. C'est fini.
Et vous rappelez dans votre livre, Le droit dans l'air des dieux, que je veux dire, la France, c'est ce pays du bout du monde. C'est un État, c'est une nation, c'est une république. Bon, qui a pu faire des choses avec la colonisation, etc. Donc tout ça, c'est notamment actuellement, c'est soumis à des examens mémoriels. Mais je veux dire que il y a ce droit de blasphème que vous rappelez, qui date et qui a été aboli en 1791 par les révolutionnaires.
Et oui, nous sommes le premier pays au monde en 1789 puis en 1791 à avoir déclaré la liberté d'expression comme étant un droit fondamental et à avoir dit, on peut dire ce que l'on veut de tous les dieux et de toutes les religions. Et vous savez, moi, quand je fais ce livre avec ce titre, éventuellement, je peux faire de la peine à mes parents, à ma mère, parce qu'elle vient pas de cette culture-là, elle vient du Maroc. Je suis pas sûr qu'elle aime beaucoup ce titre. Sauf qu'elle m'a fait naître en France. Bah, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. C'est elle qui est venue en France et puis qu'elle m'a fait naître là. Je regarde le droit de ce pays, et le droit de ce pays depuis 3 siècles, c'est qu'on a le droit d'emmerder Dieu, y compris d'emmerder Dieu. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est un droit.
C'est un droit.
Et c'est un droit important parce que c'est le droit, encore une fois, en fait, ce n'est un droit qui s'exerce qu'en réaction à des phénomènes fanatiques, intégristes, politique. Donc c'est une espèce de barrière qui parfois dit à la religion, non là vous allez trop loin, non vous pouvez pas aller jusque là, vous pouvez pas régir ma vie d'être humain à ce point là et donc j'ai le droit de me moquer de vous, mais vous êtes pas
en cette abolition du blasphème, ouais. Ce droit au blasphème, moins d'un siècle plus tard naît donc la liberté de la presse, le décret de
1881. Ouais. Et Clémenceau, et à ce moment-là, l'Église catholique est pas du tout d'accord. Et l'évêque d'Angers, je crois, veut introduire une modification dans la loi pour qu'on ait l'obligation de respecter les religions. Et là, Clémenceau répond, Dieu se défendra bien tout seul.
Dieu est capable de se défendre lui-même.
Absolument,
c'est ça.
Il n'a pas besoin de la Chambre des députés. Phrase qui sera reprise quasiment à l'identique un siècle plus tard, au moment des caricatures de Mahomet, par Soeb Bencher, qui est le moufti de Marseille, qui dira, un croyant...
Alors, je vais vous citer.
Allez-y.
Il dit exactement, un musulman qui croit que Dieu n'est pas assez grand pour se défendre tout seul est un musulman qui doute de la toute-puissance divine et il n'est pas un bon croyant. Ça, c'est Soeb Bencher, le moufti de la mosquée de Marseille.
Que je cite dans ce livre et que j'ai cité dans ma plaidoirie, effectivement. Mais ça me paraît tellement évident. Quand on est tranquille, qu'est-ce que ça peut faire? Franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Et personne n'est obligé d'aller acheter Charlie Hebdo et puis de regarder les pages intérieures pour se faire mal. On est bien au-dessus de ça quand on est un croyant paisible. Il n'y a que les fanatiques et les intégristes qui n'acceptent pas, encore une fois, l'autre, celui qui pense différemment.
Et ça veut dire aussi que de l'abolition, du droit au blasphème, à la liberté de la presse, etc., c'est un cheminement qui a duré presque deux siècles. Hein.
Mais oui, mais parce que...
C'est long tout ça, c'est pas tombé du ciel.
C'est très long, et on oublie que, parce que tout ça est évidemment lié au concept de laïcité, en fait, pourquoi on a fait la laïcité dans ce pays? Parce que pendant des siècles, on a connu les guerres de religion, avec des dizaines et des centaines de milliers de morts entre catholiques, protestants, tout ce que vous voulez. Et un jour, on a dit, c'est plus possible. La seule manière de vivre ensemble, pas de manière communautariste selon les pays anglo-saxons, mais vraiment ensemble, c'est de laisser le religieux dans la sphère privée et dans la sphère publique. Il y a une loi républicaine et c'est la même pour tous.
Qu'est-ce que je voulais dire? Et vous expliquez aussi, enfin, vous avez une très très belle phrase, page 39 de votre livre, Le droit d'emmerder Dieu. Vous dites, et ça c'est vous qui parlez, la raison progresse par ses erreurs quand la foi meurt de ses errements.
Eh oui. Ben oui, parce que je rappelais l'origine de toute cette maturation qui se trouve au XVIIIe siècle, dans le siècle des Lumières. Et là, en fait, toute la philosophie des Lumières passe du fait que un jour un scientifique a dit ben non, la Terre n'est pas tout à fait ronde, elle est aplatie en ses deux pôles. Et là, pour l'Église, c'était la catastrophe, parce qu'ils avaient fini par admettre que la Terre n'était pas plate. Absolument. Et puis ils posent le dogme que la Terre est ronde, et puis on leur dit ben non, en fait, ronde, elle n'est pas tout à fait ronde. Et là, ben, ça a remis en cause le caractère dogmatique de la foi. Et donc ça a poussé la société à remettre en cause la religion dans tous les domaines, dans les mathématiques, dans les lettres, dans la poésie.
Et c'est là que vous parlez des encyclopédistes.
Exactement.
Et vous dites que ces encyclopédistes ont regardé le monde débarrassé de Dieu. Ouais. Et donc que font ces encyclopédistes? On cite D'Alembert, Diderot, Rousseau. Donc qu'est-ce qu'ils font?
Eh ben, ils font l'encyclopédie, qui est mis à l'index par le pape comme un livre hérétique immédiatement, et ils regardent le monde avec la raison, et ça change tout. Et en quelques années, eh ben, ils réclament l'abolition de la peine de mort. On est au XVIIIe siècle, on écarte les légendes à cette époque-là. Ils demandent l'égalité des hommes et des femmes, ils demandent la fin de l'esclavage, ils demandent l'égalité pour les juifs. Et la Révolution française ne fera que c'est les enfants des encyclopédistes, et ils mettront en application ces divers principes. Et ça, c'est la philosophie universaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les hommes comme étant tous égaux en conditions humaines, pas en fonction de quelle couleur il est là, quelle religion il a, quelle sexualité il est là. Et malheureusement, aujourd'hui, on revient sur ces principes-là, on réintroduit les concepts de race sous le drapeau d'une idéologie progressiste qu'on appelle le wokisme, où on regarde tout le monde au travers de, à nouveau, de bah, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est métis. Alors les métis, on ne sait pas très bien dans quelle case on les met. Est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est chrétien? Pour moi, c'est insupportable. Je ne vois pas les gens en fonction d'une toute petite partie de leur identité. Je cherche à savoir s'ils sont intelligents, s'ils sont tolérants, s'ils sont drôles. Ça m'intéresse pas, le reste.
Et vous dites que il y a un certain nombre de gens, d'élus, de personnalités, qui prêtent le flanc à toute cette idéologie un peu molle, de la laïcité positive de Nicolas Sarkozy, en passant par il ne faut pas trop embêter les croyants en faisant ceci, cela.
Mais ouais.
Et vous pointez du doigt, vous donnez des noms, etc. Et ouais. Vous dites, ces gens-là ont une responsabilité dans l'amoindrissement, l'affaiblissement de ce qui a été conquis pendant des siècles et des siècles en France.
Oui, et alors là...
Et vous donnez des noms et vous donnez des exemples.
Absolument. Et encore une fois, je suis heureux d'en parler à votre micro. Toute la problématique dans ces affaires-là, c'est que la gauche en particulier, comme on était sorti de la lutte des classes, il a fallu inventer autre chose, donc elle a inventé la lutte des identités. Et à partir de là, on a considéré que les musulmans, c'était les dominés contre les dominants, et tout est passé dans cette grille de lecture-là.
Il ne faut pas les heurter.
Il ne faut pas les heurter, il ne faut rien leur dire, il faut surtout... mais c'est insupportable. Pour moi, c'est ça le racisme. C'est essentialiser des gens. On les met dans une case. Alors voilà, vous êtes musulman, vous êtes victime. Que c'est comme ça. De votre naissance à votre mort, quoi que vous fassiez, que vous soyez médecin, chef d'hôpital, journaliste, avocat, comptable ou artiste, vous êtes victime. C'est insupportable, en fait.
C'est-à-dire qu'au lieu de les intégrer par rapport à leur statut
social, c'est condescendant.
D'un point de vue d'égalité sociale par rapport à leur citoyenneté, on les aborde sous l'angle d'une origine.
C'est ça. Et je trouve ça profondément méprisant, en fait. Et je me bats contre ça et contre cette idéologie-là. Et la gauche a une infinie responsabilité dans le malaise actuel de notre société. C'est à elle de proposer un renouveau de la laïcité. Vous savez, moi, vous savez avec qui je me bats, moi, pour la laïcité, dans les tribunaux, au premier rang, sur la ligne de front. Je vais vous le dire, parce qu'il y a qu'ici que je peux le dire. C'est-à-dire, en gros, avec des juifs et des musulmans. C'est eux qui se battent aujourd'hui. Les plus farouches défenseurs de la laïcité, ce sont eux, avec quelques francs-maçons aussi. Et alors, pourquoi on les mettrait dans la case? Parce que la gauche a décidé qu'ils étaient dominés une fois pour toutes, qu'ils aimaient pas la laïcité et l'universalisme, et que c'était pas pour eux, oui, et que c'était pas pour la liberté d'expression et le droit des caricatures, parce qu'eux, ils ont pas assez d'humour. Mais dans la rue arabe, vous le savez mieux que moi, il y a des blagues. On rit aussi de la religion.
Absolument, absolument.
Mais oui. Et en France, on pourrait pas. Je comprends pas.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Alors, dans votre livre aussi, Le droit d'emmerder Dieu, vous faites ce qui pour moi est une très grande indulgence. Par exemple, vous parlez du recteur de la mosquée de Paris qui était contre Charlie Hebdo et qui était en procès contre vous, etc. Et vous dites qu'aujourd'hui, il est revenu à de meilleurs sentiments. D'ailleurs, il vient de sortir un manifeste pour la laïcité, etc. Quel que soit lui ou quelqu'un d'autre, à partir du moment où on se dit qu'on est un religieux dans ce pays, vous pensez pas qu'il y a une espèce de duplicité, que les gens sont pas vraiment honnêtes, qu'ils sont pas sincères?
Alors, en tout cas, je ne le pense pas de Shemseddine Inafis. Je crois en sa très très grande sincérité.
Donc il a changé,
ah
il
oui,
a fait quoi?
Mais les hommes ont
et
le droit.
Pourquoi il a changé comme ça?
Je pense que les hommes, on a le droit d'évoluer, mais c'est la preuve de l'intelligence humaine d'évoluer. Et je crois qu'il a changé, effectivement, parce que en 2006-2007, effectivement, il fait partie de ceux qui poursuivent Charlie Hebdo. C'est plus le même en 2020, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu quand même toute une série d'attentats, donc il a pu affiner sa réflexion. Et aujourd'hui, il dit, ça me plaît pas les caricatures. Et il a bien le droit de le dire, et je comprends complètement. Mais il ajoute, mais c'est la loi de la France, donc je l'accepte. Et donc, c'est comme ça, on doit l'accepter, parce que ça fait 3 siècles que c'est la loi ici. On a le droit d'être blessé, de pas aimer, mais ça concerne chacun. Et la loi est la loi. Ah, c'est un discours qui est, je lui en suis évidemment reconnaissant. Et je crois que la sincérité aujourd'hui de son engagement, parce que les choses ont beaucoup évolué depuis 2007, on ne peut pas la remettre en cause. Alors après que chez d'autres, il y ait parfois un double discours, en particulier au CFCM, ça, je ne peux que vous rejoindre.
Alors, vous vous rappelez cette espèce de discours, je suis Charlie, mais je ne suis pas Charlie Hebdo. Et beaucoup de gens se sont engouffrés là-dedans. Et aujourd'hui, ça a changé ou vous avez toujours le même son de cloche?
Ah, j'ai toujours. Alors, il y a eu une évolution du discours politique quand même. On a fait du chemin. En particulier, après 2015, ça n'a jamais été aussi pire. Mais depuis le procès, depuis Samuel Paty, on sent quand même que les choses vont un peu dans le bon sens. Maintenant, je garde un problème, toujours, nous gardons un problème sur ces problématiques-là avec l'extrême-gauche. Parce qu'ils instrumentalisent, ils instrumentalisent ces questions-là. En fait, ils l'instrumentalisent pour moi autant que l'extrême-droite. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit, pour l'extrême-droite, tous les musulmans sont des envahisseurs, et puis pour l'extrême-gauche, tous les musulmans sont des victimes. Ben non, les musulmans, ils sont ce qu'ils veulent d'abord. Et puis, ils sont dans une très grande diversité. Et puis, ils votent pour qui ils veulent, comme les juifs d'ailleurs. Parce que j'aime pas ces débats de « vous êtes juif, vous devriez voter ceci et pas pour cela et pour un autre ». Non, j'aime pas les assignations identitaires. Nous sommes aussi divers, nous, dans nos petites communautés respectives, que tout le monde. Et on a le droit de penser exactement comme on veut.
En tout cas, c'est extrêmement... l'éducation est importante, on est dans la République et la laïcité, vous l'avez rappelé, est importante à rappeler. Moi, je sais que quand Charlie Hebdo a été attaqué, quand il y a eu ça, moi, je me suis pas défini comme appartenant à telle ou telle communauté. J'ai rappelé un peu à travers Mustapha comment il nous avait aidés. Et c'est un organe de presse, ça fait partie de notre culture en tant que citoyen français, citoyen de la République. Et moi, ce jour-là, le seul sentiment qui prédominait chez moi, c'était un sentiment de deuil. Ben je me sentais orphelin. C'est-à-dire qu'on avait enlevé une partie de ma culture. Point. C'est-à-dire que j'ai même pas réfléchi. L'autre,
bien sûr.
C'était une
mais c'est
autre
qui,
chose.
C'est ça qui est beau. Regardez,
vous êtes
on est pareil tous les deux.
Ouais.
On n'est pas français depuis très très longtemps. Hein.
Bien sûr.
Nos parents, ils l'étaient pas.
Bien sûr.
Et pourtant, on en a fait quand ça arrive. Alors moi, bon, évidemment pour des raisons personnelles, mais ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait de ça notre culture, une partie de notre culture. Et pour moi, être, se dire je suis Charlie, en fait, ça veut dire que je sais que la liberté a un prix.
Bien sûr.
C'est un combat. Et c'est ce que je veux dire à tous vos éditeurs. C'est un combat, ça a un prix. Si vous voulez que vos enfants vivent libres, pas sous la, sous le joug des fanatiques, des intégristes de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, il faut leur apprendre la liberté, l'esprit critique, le libre arbitre. Cette question, c'est aussi au sein des familles. Moi, je Rabelais, c'est mon ancêtre. J'ai décidé. En fait, on a la culture que l'on choisit d'avoir. Ça, c'est, on en hérite d'une partie, puis après, on n'est pas prédéterminé comme ça jusqu'à la fin de ses jours. À un moment, vous prenez un peu d'autonomie par rapport à votre créateur, même par rapport à vos parents. Vous dites merci papa, merci maman de m'avoir fait naître, mais maintenant, je suis un être humain, j'ai le droit un peu d'avoir un espace de liberté. Ben, c'est pareil par rapport à Dieu. Et Dieu vous y incite, parce que sinon, c'est de l'idolâtrie.
Alors, il ne faut pas confondre Dieu et les religions, Richard Malka. Ce sont deux choses différentes.
Bien sûr.
Dieu, c'est la spiritualité.
Ben oui.
Rappelons quand même que Dieu existait bien avant les monothéistes, puisque même dans les pratiques d'adoration, d'idoles, etc.,
bien sûr.
De Dieu de la pluie, il y avait toujours un Dieu supérieur aux autres.
Toujours.
Et il y avait un Dieu majeur. Et en fait, les monothéismes ont venu entériner cette espèce de Dieu un peu supérieur, mais en aucun cas... Vous ne, dans votre livre en tout cas, vous ne portez atteinte à la spiritualité, à la croyance, à la capacité de croire, mais la religion, c'est un code, c'est un code de la route, quoi.
Absolument.
C'est passer par là, faire ceci, faire cela. Donc
et en plus, pas toujours très clair.
Voilà.
Avec tout et son contraire.
Voilà. Et c'est cette religion qui est malheureusement est instrumentalisée par des tenants du pouvoir ou des businessmen ou des armées, voilà,
des politiques ou des gens qui s'en servent comme un instrument de pouvoir pour garder le pouvoir. Mais ça, on a connu ça en France avec les croisés, avec les rois. C'est comme ça dans tous les pays. Aujourd'hui, ça se déroule beaucoup en terre d'islam et ça crée le malheur des peuples musulmans qui sont malheureusement privés de liberté.
Il y a deux choses. En Amérique du Sud, longtemps pour lutter contre les dictatures, on a pris la religion. On a dit c'est une théologie de la libération.
Mmh.
Est-ce que ce qui était valable en Amérique du Sud ne peut pas être valable en terre d'islam ? Et la deuxième question, c'est beaucoup de gens que vous citez à l'instant, de gens de gauche, etc., qui ne sont pas très clairs là-dessus, prennent la France pour des manœuvres néocolonialistes de la part de la France. Alors, sur les deux questions, les deux volets.
Je n'ai pas de légitimité pour m'exprimer sur la manière dont
culturelle, philosophique.
Effectivement, en terre d'islam, on sent un raidissement, mais ça bouge aussi. Hein. Ça, regardez ce qui se passe.
Est-ce que ce qu'on a accepté en Amérique du Sud, on peut dire que des gens utilisent aussi l'islam comme une forme de théologie de la libération pour abattre telle ou telle dictature en pays musulman.
Pour abattre ou pour les constituer.
C'est clair.
Eh oui.
C'est clair.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça bouge. Alors évidemment, il y a des phénomènes de radicalité toujours. Mais regardez ce qui se passe en Turquie. C'est très intéressant. Pays laïque depuis Mustafa Kemal. Depuis longtemps quand même. Donc ça a eu le temps d'infuser dans la société. Et puis Erdogan essaie de revenir sur tout ça et d'islamiser, de radicaliser toute la société. Au passage. En éliminant des milliers de musulmans kurdes, il les éradique et c'est lui qui nous qualifie d'islamophobes pour des dessins. Donc ce serait islamophobe de dessiner mais pas d'éradiquer des milliers de musulmans. Et ça je l'ai dit à la cour d'assises. Alors là il y avait une partie des terroristes qui étaient en train d'applaudir parce qu'ils étaient kurdes justement. Mais malgré ça, eh ben en fait, il y arrive pas. Et il y a un sondage qui a été fait récemment en Turquie. Il y a de plus en plus de athées, de déistes, et il y a un retour de la laïcité dans la société. C'est mouvant. Il faut pas perdre espoir. Il y a des mouvements de libération de ces mouvements fanatiques, parce que ils y arriveront pas. Il y a la liberté humaine, c'est indomptable. On peut pendant des siècles et des siècles mettre un couvercle dessus, mais à un moment ou à un autre, ça se réveille. Et quant à la France, alors pardon, j'ai oublié votre seconde question.
Sur le côté néocolonial.
Oui, mais ça. Ça devient absurde. C'est-à-dire que les Français, moi, j'en parle comme vous, parce que c'est pas encore une fois, c'est pas mon peuple depuis très longtemps. Mais les Français seraient des colons chez eux. Comment ça marche, ça? Donc, dans chaque pays, les Algériens, ils seraient colons chez eux. Ça n'a pas de sens, quoi. On est dans le délire complet.
On arrive à la fin de cette émission et je voudrais vous parler de l'avenir et de l'optimisme. Et je voudrais parler des jeunes, de l'éducation. Beaucoup de jeunes sont partis faire le djihad en Syrie, des jeunes français, convertis ou pas convertis. Un message à la jeunesse sur comment ces jeunes de la République, c'est la République qui les a pas ramassés, c'est la faute à la République. Ouais. Donc comment faire mieux et plus pour que ces jeunes se sentent dans la République et comprennent que on a le droit de critiquer la religion, qu'on a le droit de croire, de ne pas croire. Quoi faire en direction de ces jeunes? Les chars de la laïcité, mais quoi d'autre?
Non. Alors d'abord, juste un point, et là c'est plutôt aux parents que je m'adresse. En fait, dès qu'on y met un pied, on est en danger mortel dans cette idéologie-là. Ça va très 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 vite. Dans les dossiers, on le voit. Des gosses qui sont tout à fait normaux, en 2 mois, vous les avez perdus. Et les familles ne savent plus quoi faire. Et elles sont dépassées.
C'est une traînée de poudre et c'est l'addiction.
Ça va à une... C'est du crack. Ça va à cette vitesse-là. Donc c'est pas une drogue douce, c'est une drogue dure. Donc une vigilance très grande. Mais ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, vous savez, quand on est jeune, on a besoin, on l'a oublié nous, mais on a besoin de croire à plus grand que soi. C'est comme ça. On a besoin de quelque chose de transcendant, qui nous dépasse, un espoir. Et le malheur de nos pays occidentaux, c'est qu'en fait, il y a plus grand chose de transcendant. Il y a plus le communisme. Le christianisme, c'est plus une idéologie. L'Europe, ça fait plus rêver. Il y a plus grand chose. Et ça manque. Il ne peut pas y avoir
et la que radicalité est très à la mode dans tous les domaines.
Et
la
oui, donc à nous et ça il va falloir le faire, à nous d'inventer un espoir, un sens, une transcendance, un chemin. Et pour moi, cette transcendance là, et ben précisément, c'est la raison, c'est la liberté d'expression, c'est la possibilité de rire de tout.
Et ben on retiendra cet esprit combatif et cet optimisme. Le droit d'emmerder Dieu, que vous soyez croyant ou pas croyant. Le droit d'emmerder Dieu aux éditions Grasset. Merci Richard Malka, vous
Merci
avez été
vous.
Notre grand témoin aujourd'hui. Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.